Voilà, bonjour à tous. Hosanna ! Si j'ai bien compris, nous sommes le dimanche des rameaux. Jusque-là, ça va. Mais après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, moi, j'ai plus rien à dire. Voilà, merci d'être venu et à dimanche prochain. Non, on va quand même pas faire ça. On va quand même lire l'histoire des rameaux et voyons ce qu'on peut... peut-être apprendre de nouveau, peut-être, je dis bien. Alors, je vous invite à suivre cette lecture dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et nous lirons les 11 premiers versets. Matthieu 21, versets 1 à 11. Donc, il s'agit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, eh bien vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, mais qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ah, combien j'aurais voulu être là, participant à cette liesse, à cet enthousiasme. Ça devait être formidable. Mais, on verra plus tard, plus loin, ce mais. Aujourd'hui, donc, dimanche des rameaux, dans beaucoup d'endroits où l'Église est présente, bien les chrétiens célèbrent la royauté du Seigneur Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus, sa souveraineté sur toutes choses, y compris sur nos vies. Et je dirais même principalement sur nos vies. Donc Jésus entre à Jérusalem et cette entrée à Jérusalem inaugure, s'ouvre sur la dernière semaine de ministère de Jésus sur la terre. Après cette journée, bien, les événements vont aller très vite. Judas, lui, va aller négocier le prix de sa trahison parce que lui, quelque part, il a compris que les carottes étaient cuites. Excusez-moi l'expression. Donc, il fallait bien en retirer quelque chose de cette aventure. Les autorités religieuses le mettent en accusation, puis il est livré aux Romains, abandonné de tous, et finalement, pour finir, crucifié sur une croix. Mais ce matin, nous voyons trois choses. Jésus entre à Jérusalem, assis sur le dos d'un ânon. Deuxièmement, la foule est là, qu'il l'acclame. Puis troisièmement, il faut bien quand même se poser la question. Et nous, aujourd'hui, en 2022, que faisons-nous de tout cela? D'abord, il y a cet ânon qui intrigue, franchement. C'est quand même pas banal. C'est banal, c'est comment dirais-je? C'est inhabituel qu'un roi fasse une entrée dans une ville sur un ânon. Je dirais que c'est grotesque. À la limite, c'est comique. Normalement, on rentre sur un cheval, et puis entouré d'une garde. Mais Jésus entre dans Jérusalem assis sur le dos d'un ânon. En fait, tout simplement, il accomplit ce que le prophète Zacharie avait annoncé quelques siècles auparavant. Le fait que personne n'ait encore jamais monté sur l'ânon souligne la fonction religieuse à laquelle l'animal va bientôt participer avec Jésus. Par exemple, en se référant à l'Ancien Testament, nous voyons que c'était un animal qui n'avait encore jamais porté le joug, qui tirait l'arche de l'Alliance. C'est rapporté en 1 Samuel chapitre 6. Ou qui était sacrifié lors du sacrifice de la vache rousse, Nombre 19. Et le chariot neuf, lui, portait l'arche de l'Alliance, toujours 1 Samuel 6. Et puis une écuelle neuve servait au prophète Élisée pour assainir l'eau de Jéricho. Donc, c'est le roi messianique que l'ânon portera lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le sens que Jésus a voulu donner à cette démarche. Il veut réaliser l'annonce du prophète Zacharie, où nous lisons au chapitre 9, versets 9 à 10, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient vers toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Cette prophétie annonce donc l'avènement d'un Messie humble et pacifique, dont la monture modeste contraste avec le cheval, monture de la guerre, introduite d'ailleurs en Israël par Salomon, 1 Roi chapitre 10. Et au temps de Jésus, le cheval était utilisé par l'occupant romain. D'ailleurs, l'occupant était détesté au plus haut point. Ainsi donc, Jésus fait connaître ici la véritable nature de son messianisme. Non pas celui des rêves guerriers, où se complaisent la plupart de ses contemporains, mais celui déconcertant à première vue qu'annonçaient les prophètes du serviteur. D'ailleurs, Ésaïe 53, 1 dit « Mais qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ?» Et puis, à travers la prophétie de Zacharie, rejoignait aussi l'esprit du roi David, montant lui aussi une humble monture. C'est donc bien un messianisme hautement traditionnel que celui de Jésus, et qui invite ses contemporains à rectifier leur conception, leur compréhension. Mais, comme je vous le disais, il y a un mais. Cette foule, est-ce qu'elle a réellement compris? On peut en douter. Malgré l'allusion à David, bénis le règne qui vient, celui de notre père David. Oui. Donc, le fait d'être monté sur un ânon, c'est pour Jésus un geste symbolique, symbole d'humilité, de douceur. Autre détail, Jésus arrive à Jérusalem par la montagne des Oliviers, montagne désignée par le prophète Zacharie, toujours comme le lieu d'apparition du Messie. Zacharie 14, 4. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Jusqu'à présent, Jésus est en train de réaliser les prophéties qui ont été dites quelques siècles auparavant. Aux disciples, Jésus dit « Si l'on vous demande pourquoi vous détachez l'ânon, dites « le maître en a besoin ». Donc, les disciples obéissent, s'en vont et trouvent les choses exactement comme Jésus l'avait dit et tout se passe comme prévu par Jésus. Pourquoi ? Jésus sait tout, voit tout, connaît tout, même les choses cachées, même celles que nous avons nous-mêmes oubliées, et il sait si nous sommes attachés, liés à quelque chose. Il le sait. Sommes-nous liés par l'alcool, le mensonge, les écrans, la pornographie, le sexe, que sais-je encore ? Ce qui te retient, ce qui t'attache, Tu dois savoir que le maître a besoin de toi et qu'il te détache. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie sa parole et son Saint-Esprit pour te détacher de la captivité que tu endures de ce à quoi tu es attaché et qui te rend esclave. Ne résistons pas, parce que l'ânon, lui, n'a pas résisté. Si Dieu a utilisé un ânon pour transporter son fils, il peut aussi t'utiliser. Il peut aussi m'utiliser. Parfois, nous faisons des âneries, mais nous ne sommes pas des ânes pour autant. Oui. La foule. Voyons cette foule. Qui sont tous ces gens qui sont là? La majorité des disciples de Jésus, certainement, principalement des Galiléens, venus pour la fête de Pâques. Ce n'est pas un hasard si cette foule est là. Puis vous savez, comme on dit, la foule attire la foule. On peut l'observer. Vous allez sur la place jaune, vous avez un petit groupe là, puis d'un seul coup, il y a des gens qui viennent voir ce qui se passe, et puis voilà, et puis la foule grossit ainsi. Donc c'est certainement cela là qui s'est passé. Et puis, Jésus est maintenant au summum de sa popularité. Il vit ses derniers jours sur terre. Et le voilà, il arrive, il se présente à Jérusalem dans des acclamations, des cris de triomphe, Matthieu 21, 9. La foule précédait et suivait Jésus, c'est-à-dire Jésus était entouré. Et puis le premier cercle, ses disciples étaient là aussi et ils participaient et aussi à cette euphorie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts, et ça n'en finissait pas. Cette foule acclame Jésus comme le roi d'Israël, le libérateur venu pour délivrer son peuple, oui, comme Moïse l'a fait du temps de l'Égypte. Seulement voilà, l'enthousiasme de la foule ne doit pas nous tromper sur les vraies motivations de celle-ci. En fait, cette foule veut un roi qui lui garantisse la sécurité politique, l'abondance matérielle. Cette foule veut un Messie qui les débarrasse de l'impérialisme romain et non un sauveur qui sauve du péché. Il y a comme un malentendu là, quelque part. Cette foule ne comprend pas le sens véritable de la mission de Jésus. Le sens de sa royauté qui n'est pas de ce monde. Cette foule s'imagine un Messie triomphant et enfin la restauration politique, historique et le peuple d'Israël sera réalisé ainsi, l'avenir d'Israël. Donc, l'idée de cette foule, Jésus vient renverser le pouvoir en place pour s'asseoir sur le trône de David. Et les disciples, dans leur tête, ils se voyaient déjà ministres de ceci, ministres de cela, etc. Et voilà, le tour était joué. Donc, dans l'idée de cette foule, Jésus vient restaurer les choses comme du temps du roi David et de Salomon, pourquoi pas. Mais le message du salut de Dieu, la seigneurie de Jésus, rencontre toujours de l'incompréhension aujourd'hui, de l'opposition dans notre monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde marqué par le péché et parler du royaume, du règne de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas une chose aisée aujourd'hui encore. S'il est vrai qu'il y a environ 660 millions de chrétiens évangéliques dans le monde, il faut reconnaître que nous ne sommes pas en majorité. Un grand nombre ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur du ciel et de la terre, comme le Sauveur du monde. Et d'après ce que rapporte le texte, la foule qui acclame Jésus comme roi ne veut pas dire que Jésus est le Seigneur de leur vie. Pour nous, c'est aussi la même chose. Nous pouvons venir ici, chanter, frapper des mains, même prier. Cela ne veut pas dire que Jésus est le Seigneur de toute ma vie, qu'il règne sur ma vie et qu'il règne dans ma vie. Jésus sait tout cela. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Mais il reçoit quand même les acclamations de la foule. C'est vrai qu'il est le fils de David, le roi Messie venu pour accomplir les promesses faites au peuple. Il est le roi d'Israël, même si sa royauté est d'un autre monde, d'un autre ordre, que celle à laquelle la foule pense et à laquelle elle l'acclame. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à ses disciples. Il y a des détails dans notre texte qui paraissent peu importants, mais qui ont du sens. En mettant des vêtements, des rameaux sur le chemin, ces gestes symboliques saluaient dans l'Antiquité la venue d'un roi. C'est rapporté en 2 Samuel 15, en 1 Roi 1, 2 Roi 9. Donc, cette foule entend rendre les honneurs à celui qu'elle considère comme le roi d'Israël, comme étant le Messie. Ça, elle l'avait capté. Et nous entendons même les acclamations. Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Vous pouvez imaginer entendre toutes ces clameurs, toutes ces proclamations. Hosanna venir. On l'a entendu déjà. Accorde le salut. La foule accueille Jésus en lui donnant le titre de sauveur. Et il n'y a aucun doute qu'aux yeux de la foule, Jésus est le Sauveur et le Seigneur, le véritable roi d'Israël, le Messie venu pour délivrer son peuple. Aucun doute. Mais voilà, il y a une douloureuse équivoque, un étrange paradoxe. Israël acclame son roi en la personne de Jésus, mais en aucun cas ne discerne pas en Jésus-Christ, le serviteur souffrant du prophète Ésaïe, venu pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au chapitre 50, verset 6 d'Ésaïe, nous disons « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Voilà le Messie promis. La royauté de Jésus passe par la croix. C'est en donnant sa vie, en s'offrant en sacrifice pour le péché, le vôtre, le mien, que Jésus est intronisé roi et que Jésus est vraiment le Seigneur. Plus tard, c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 2, 6 à 11. Il dit, voilà, Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, voilà la royauté de Jésus. Le vrai sens de sa venue sur terre est là. Jésus est bien le roi d'Israël, oui, sans conteste, et c'est comme cela qu'il entre à Jérusalem le jour des rameaux, mais pas comme cette foule l'espère. Le peuple est prêt à faire de Jésus son héros, même à reconnaître une mission divine, mais il y a une manière d'acclamer Jésus et de l'appeler Seigneur, quitte à le renier et réclamer qu'il soit crucifié dans quelques jours. Quel paradoxe ! Quel paradoxe ! Je pense à ce que Jésus a dit en Matthieu 7, 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas obligatoirement dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, on peut se dire « Mais comment ça ? Comment est-ce possible ?» Oh, tout simplement. Parce que Jésus n'est pas venu dans le monde pour répondre aux aspirations politique ou sociale, ou à nos petits désirs égoïstes. C'est vrai que L'Évangile a aussi des implications dans ces domaines. Parce que la seigneurie de Jésus s'exerce aussi dans tous les domaines de la vie. La seigneurie de Jésus s'exerce aussi dans toutes les sphères qui composent notre société. Et Jésus ne vient pas pour prendre le pouvoir d'un pays ou pour associer son nom à telle ou telle cause humaine, aussi légitime soit-elle, certes. Maintenant, il y a le risque de jeter la pierre à cette foule qui acclamait Jésus. Mais faisons attention, parce que qui parmi nous, et peut-être moi le premier, ne s'est jamais trompé à un moment donné de sa vie concernant la personne et l'œuvre de Jésus, sur sa volonté, sur le sens véritable de sa royauté. Donc l'entrée de Jésus à Jérusalem paraît satisfaire l'espoir de tous ces gens. Et en fait, Jésus entre à Jérusalem pour une toute autre raison. Son entrée dans la Jérusalem terrestre annonce en réalité sa venue en gloire dans la Jérusalem céleste, et le chemin passe par la croix. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est aussi le commencement de ses souffrances et la marche vers la croix dans une obéissance totale au Père. La royauté, la seigneurie de Jésus passe donc par la croix. Il est le sauveur et le libérateur, oui. Il est celui qui vaincra la mort une semaine plus tard. C'est ce que nous fêterons dimanche prochain. Il est celui qui a pris la condamnation, qui pesait sur nous pécheurs. C'est la manifestation du salut de Dieu dans le monde, dans notre histoire, ton histoire, mon histoire. Et la royauté de Jésus, c'est Dieu avec nous, en la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, celui qui vient pour nous révéler l'amour du Père. La foule ne comprend pas tout cela, et le jour des rameaux sera bientôt remplacé par le vendredi, et les hosannas feront place, crucifie-le. J'ouvre une parenthèse. Nous votons aujourd'hui. Dans 15 jours, nous saurons qui occupera l'Élysée. Quelques semaines et quelques mois plus tard, la foule sera dans la rue. Démission ! C'est pas comme ça que ça se passe. Vous verrez. Bon, je prétends pas être prophète. Je ferme la parenthèse. Il fallait bien se débarrasser de lui, puisqu'il avait déçu les espoirs de la foule. Crucifie-le ! Il n'a pas tenu ses engagements. Et nous, dans tout cela, et les disciples, ils ont dit, mais nous, on l'a suivi pendant 3 ans et demi, et nous voilà, là, voilà, comme ça. Et nous, aujourd'hui, en 2022. Ne nous arrive-t-il pas d'être déçus, désappointés, de se sentir trahis, incompris, rejetés? Moi, cela m'arrive. Oui, ça m'arrive. Les disciples les plus proches de Jésus n'ont pas compris. Mais alors, ils n'ont pas compris. Ils ont été à côté de la plaque, mais constamment. Ils n'ont pas discerné le sens profond de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Alors, qu'en est-il de nous ? Oh, nous avons un privilège, parce que 2000 ans après, on a quand même appris des choses. Quelle compréhension avons-nous de l'Évangile ? Et comment allons-nous vivre cette semaine dite de la Passion ? Comment voyez-vous et vivez-vous la seigneurie de Jésus, la royauté de Jésus ? Qu'est-ce que tout cela veut dire vraiment pour chacun de nous, concrètement, dans notre vie de tous les jours ? Quelle place réelle Jésus occupe-t-il dans ma vie ? Est-ce que Jésus, sa parole, occupe la première place dans ma vie ? La place d'honneur, la place royale. Alors comment vivre concrètement la seigneurie de Jésus dans le monde qui le rejette? Car je le répète, on est loin d'être majoritaire. C'est un défi à relever, avec l'aide de Dieu, avec sa grâce. Jésus n'est pas seulement le Sauveur, mais il est bien le Seigneur du ciel et de la terre. Celui par qui et pour qui tout subsiste et dans lequel toute la création sombrerait dans le chaos sans cela. Celui qui tient dans sa main la destinée des nations, qui tient le monde dans sa main comme la destinée de chacun de nous ici présents ce matin. Celui à qui revient toute notre obéissance, notre louange, notre adoration, celui-là seul qui mérite le don total de notre vie, la soumission inconditionnelle de notre volonté à la sienne. C'est ça, la seigneurie de Jésus-Christ, frères et sœurs. Quelqu'un a dit, le remède, la réponse, la solution à tous nos maux, nos détresses, c'est une entière soumission à la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Et en ce matin, dimanche des Rameaux, nous voulons bien célébrer Jésus le roi, mais que cela ne soit pas que des mots. Vivons la réalité du règne du Christ jusque dans les plus petits détails de notre vie. Parce que lui-même, il est impliqué, il veut s'impliquer dans les plus petits détails de notre existence. Sans rien laisser de côté. Vous, les jeunes, donnez à Jésus-Christ la première place dans votre vie. Confiez-vous vraiment à lui. Remettez entre ses mains votre avenir, vos études, vos projets, car c'est là ce que Dieu attend de vous. C'est aussi la clé d'une vie réussie. Quant à vous, adultes, même les cheveux blancs, qui êtes déjà bien installés dans la vie, n'ayez jamais de cesse de vous en remettre à Dieu, de vous confier à Jésus-Christ pour toute votre vie. Que Jésus soit véritablement le chef de votre foyer, le maître invisible de votre vie tout entière. Et si quelqu'un est encore captif, Jésus peut vous délivrer. Rien ne saurait vous être plus profitable que cela. Rien ne saurait combler davantage vos attentes et répondre à vos aspirations les plus profondes. Je suis convaincu que Jésus aujourd'hui veut faire cela. Alors oui, nous pouvons nous aussi célébrer, fêter l'entrée de Jésus dans Jérusalem, l'entrée de Jésus dans vos vies, l'entrée de Jésus dans notre monde dont il est le Créateur et le Sauveur. Que la louange et l'adoration soit notre mode de vie. Vivons-le jour après jour, jusqu'à ce qu'il vienne, lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il arrive, il vient. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin encore te dire toute notre reconnaissance, toute notre joie pour le don d'amour que tu nous as fait en Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, Jésus a effacé l'acte de condamnation qui pesait sur nous. Il a pris sur lui notre péché en s'offrant lui-même en sacrifice pour que nous puissions vivre dans la présence de toi, Père. Que le règne de Jésus-Christ soit véritablement reconnu et vécu ici à Clermont-Ferrand et dans cette communauté. À commencer par nous-mêmes, à commencer par nos propres vies. Seigneur, donne-nous simplement de conformer nos vies à ta volonté. Amen. Amen. Hosanna.